Bonsoir France de Paris. Grâce à vous, je viens de passer un moment absolument délicieux. Je me croyais dans les dans le duvet des plumes de l'oie de Niels Holgersson. Et puis surtout entendre la personne s'exprimer en suédois. On était complètement dépaysé. Je trouve que la radio, c'est tellement magnifique parce qu'on peut tellement imaginer de choses. Ça rappelle quand on était petit, qu'on lisait dans le grenier tous ces contes qui nous ont bercés. Un moment délicieux dans une année horrible. Avec seulement la bonne nouvelle des otages libérés. Merci à vous.
Oui, ben, bonsoir Daniel, c'est Marie à Rennes. Ben, elle est bien cette fin de journée. J'ai eu un grand sourire quand je t'ai entendu annoncer un flash spécial. Alors c'est vrai, ils ont été libérés. Ben, c'est bien. Ben, je voulais dire aussi que je dois pas être la seule dans ce cas-là, que je pense très fort à Ingrid Betancourt. À ses filles, à sa famille, c'est le troisième Noël d'absence. Si ça pouvait être le dernier, on l'oublie pas. Enfin, c'est du bonheur qui revient pour eux, c'est vraiment bien. Il y a de l'espoir peut-être, hein. Même si l'histoire c'est pas la même. Et puisque je te tiens, merci pour Niels. C'est une plongée dans mon enfance. C'est Noël. Elle est géniale ton émission. Allez, salut.
Allô, c'est le Garotte Show qui vous parle. Cela fait 964 jours que les droits des chômeurs, des malades, des SDF ont été pris en otage par le Front patronal du salut. Ne les oublions pas. Et maintenant, un message du chef du gouvernement libéral. Je voudrais rendre hommage au courage de ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont souffert ces longs mois dans des conditions difficiles. Comme vous toutes et tous, je crois que notre joie sera totale quand ils seront en toute sécurité, au chaud, sur notre sol national par ce temps hivernal. Je voudrais dire combien nous pensons dans ces moments-là aux familles. Moralité, chômeurs, malades, SDF, devenez journaliste, on vous laissera pas tomber. Même Chirac interrompra ses vacances du Maroc pour mieux vous récupérer.
Bonjour, c'est Fabrice, en région Picardie. Je suis en train d'écouter donc l'émission du matin de France Inter sur la libération de vos confrères, Christian Chéneau et Georges Malbruno. Et ben, y a une question qui me vient à l'esprit quand même par rapport à ce que peuvent dire votre président et votre directeur, c'est est-ce que la vérité, si vérité il y a vraiment, est-ce que la vérité mérite ce prix? Est-ce que des vies humaines méritent d'être sacrifiées à la vérité, comme le directeur et le président de France Inter semble le dire? Sachant que, de toute façon, l'information vraie, c'est la libération de vos collègues, mais que, en dépit de cette information vraie, il y a quand même des choses fausses ou cachées derrière, c'est-à-dire la date choisie pour la libération, les choses qu'on a dû lâcher au niveau gouvernement sûrement pour leur libération, quelque gouvernement que ce soit. Ben voilà, la question que je me posais là. Et Daniel Mermet, merci pour votre émission qui nous décile énormément. Bonne journée à tous. Au revoir.
Bonjour, là-bas si j'y suis, je vous appelle de l'Ardèche. Bon, il y a Raffarin qui est en train de causer, là. Bon, je suis très contente que les deux journalistes français soient libérés. Ils vont passer un bon Noël, tout au moins la famille va passer un bon Noël. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de penser à un bout d'émission que j'ai entendu ce matin, Caroline Cartier. Une minute trente avec le feuilleton d'Aminata, bah, qui, elle, pour Noël, elle demandait un logement. Je trouve ça absolument fabuleux. Allez, bon Noël à tous. À l'année prochaine, salut.
Voilà vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis évidemment beaucoup, beaucoup de messages autour de la libération des deux otages que nous attendons. D'ailleurs, il se peut que cette émission, ce numéro de la base soit interrompu s'ils arrivent d'ici à 18h. Nous, on va, puisque l'histoire de Nils Holgersson, son voyage à nos doigts à travers la Suède vous a plu hier, on va commencer, c'est la période des histoires et des petits-enfants. Alors, on va retrouver des histoires et des contes pour les petits-enfants et les anciens petits-enfants. Les histoires que j'ai écrites il y a bien longtemps pour Radio France, pour France Culture et pour l'Oreille en Coin. Quelques-unes de ces histoires retrouvées derrière les fagots. Voilà, c'est le thème de cette heure de La Basse où j'y suis. Avec auparavant d'autres messages que vous avez laissés sur le répondeur de La Basse où j'y suis. Ai-je bien dit le numéro 01 56 40 37 37 et avant ces messages, une petite facétie du nouveau comique français que vous reconnaissez maintenant.
Serge Dassault ?
Quoi ? C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. On vit dans un monde réel et vous vivez dans la fiction. Vous avez tort, vous n'avez pas compris, il faut les informer. Il faut que les gens sachent plus que ce que les connus fassent. Aide d'information économique. Regardez le problème du Danemark. Ouais, Danemark fait la flex sécurité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la liberté totale est d'embauche et licenciement. Il n'y a même pas de salaire minimum. Il n'y a même pas d'encadrement. C'est la liberté totale qui fait la flex sécurité.
Gérard Gelé de Méréville. J'essaye de défendre le libéralisme dans ses aspects les plus nobles, bien sûr, non pas dans ses aspects les plus noirs. Et dans les forums, je me suis fait incendier. Je fais remarquer que l'extrême droite et l'extrême gauche sont unis contre le libéralisme, comme Staline et Hitler en 1939. Leur FN, par exemple, n'est pas libéral, il est souverainiste, étatiste, anti-américain. Rien à voir avec les valeurs de liberté que très seul je fais connaître sur les forums. C'est incroyable la haine qu'il peut y avoir sur les forums concernant les délires oniriques, néo-gauchistes et altères de tout poil. Je ne comprends pas. Toutes ces idéologies, elles ont connu que des échecs et des crimes, ils ont marqué notre siècle. Un peu de raison, le libéralisme, c'est pas forcément un gros mot. Merci.
Ouais, bonjour, c'est Philippe de Gournay, là. Je voulais répondre à l'imbécile, là, qui croit que la libéralisation a enrichi énormément les gens, là, et puis que, ah ouais, c'est clair qu'il en a enrichi pas mal, quoi. Enfin, un tout petit peu, quoi, parce que tous les autres, hein, ce pauvre monsieur, mais je sais pas s'il doit regarder autour de lui, quoi, hein, parce que la pauvreté, j'en vois partout, la précarité, j'en vois partout, les gens qui travaillent et qui sont pauvres, j'en vois partout. Alors, ben, qui regarde un peu autour de lui et il verra si la libéralisation enrichit les gens. Ah oui, c'est clair. Hein. Tu rentres chez n'importe quel RMiste, il a un DVD et puis plein de DVD, hein, mais rien à bouffer. Hein. C'est clair, on a plein de saloperies qui nous servent à rien, mais l'essentiel, c'est dur à l'avoir. Allez, regarde un peu autour de toi, jeune homme.
Ouais, salut, mais arrêtez un peu de vous demander si l'économie à venir devra être libérale, capitaliste ou socialiste. C'est tout vu, ça sera ultra-libéral puisque ce sera Nicolas Sarkozy, notre prochain président de la République. Eh oui, Nicolas Sarkozy, pas encore élu par le peuple, mais déjà élu par le PAS. N'est-ce pas Michel Drucker ? Au fait, Michel Drucker, c'est jeudi 23 décembre. Oh, les braves artistes qui vont venir chanter la paix dans le monde. Sur un sous-marin nucléaire. Ciao.
Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Aude, Audilée. Donc, j'habite dans un hameau au-dessus de Gonselin, donc dans l'Isère. Voilà, je sors du travail, je suis épuisée, j'en peux plus. Et je viens d'écouter l'émission sur Nils Holgersson et je suis extrêmement émue parce que eh ben, ma mère, elle nous lisait ça, mon frère, justement, qui s'appelle Nils, c'est à moi. Et voilà, donc on est une famille monoparentale. On a perdu notre père donc quand on était bébés tous les deux, Nils et moi, et voilà, ça m'émeut énormément, voilà. Et je vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites, parce que dès que je peux, j'écoute cette émission qui... C'est un vrai bonheur et un vrai plaisir, voilà. Merci, à bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis. De belles histoires pour les petits-enfants de là-bas.
Flight number 2, arriving from New York.
Il est né, mon ami Pierrot, le divin enfant qui courait dans l'herbe joyeux comme les autres en rentrant du boulot. Petit papa Noël, il a bu son verre comme d'habitude. Qui a eu cette idée folle de sonner les matines? Entendez-vous, c'est agréable dans nos campagnes. Tiens, voilà du boudin, le jour de gloire est arrivé. Ah, ah, arrivément, redites-moi des choses tendres. Viens, poupoule, jamais je ne t'oublierai. Tu me fais tourner la tête et nous ferons de chaque jour
héros, héros, petit patapon,
toute une éternité d'amour. Que nous vivrons à en mourir.
Monsieur Brin d'Avoine avait 400 maisons. Parfaitement. Monsieur Brin d'Avoine avait 400 maisons et pourtant aucune ne lui donnait entière satisfaction. Il en possédait de toute nature et de toute dimension. L'une était si petite qu'elle tenait dans la main. Le toit s'envolait avec un doigt. La clé était une allumette. Une autre était si grande qu'il y avait des montagnes dans les chambres, des paquebots dans les lavabos, des forêts dans les cabinets. Celle-ci était tellement haute que seule une échelle pouvait y loger, et encore c'était une échelle de pompier. Une autre était tellement lourde qu'elle s'était enfoncée dans la terre jusque chez les Chinois, si nombreux, et qui pourtant n'avait jamais vu ça. Mais il en avait une aussi qui était fort légère, tout en plumes, et si on ouvrait la fenêtre, on pouvait s'envoler. Il avait une maison avec une clé, tiré par un cheval qui marchait au bord d'un canal. Il avait une maison, c'était un violon. Il faisait sécher son linge sur les cordes et l'archet glissait et ça l'énervait, ce monsieur Brin d'Avoine et ses 400 maisons qui ne lui apportaient aucune satisfaction. Pourtant, on ne peut pas dire que Brin d'Avoine manquait d'imagination. L'une de ses maisons était si large qu'une ligne d'horizon pouvait s'y coucher. Avec les îles, les cocotiers, les nuages en chemise, l'océan déchaîné. Il en avait une, c'était une gare. Des locomotives sous les couvertures vous tenaient compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens vous tenaient par la main. Une autre comportait 5 doigts, 5 doigts en laine, et les passants disaient « Oh, cette maison vous va comme un gant !» Il en avait une construite en nostalgie. Les murs étaient en miroir, les fenêtres en Arménie, les porte-bagages et les parapluies. Oui, Monsieur Brin d'Avoine avait passé sa vie à courir, à construire, à dessiner, à vendre, à acheter, palais, grottes, tentes, gratte-ciel, nids, roulottes, cabanes dans les arbres et château neuf du pape. En réalité, sans le savoir, il avait consacré son existence à rechercher la toute première maison qu'il avait habitée. La toute première, une maison au fond de la mer. Sans ascenseur, mais sans étage. Sans fenêtre, mais sans mur. Sans cheminée, mais sans toiture. Une mer, dedans, quand on nageait, c'est comme si on volait. Les oiseaux n'ont pas de mémoire. Mais la mer le sait. Les oiseaux ne sont que d'anciens poissons et je m'adresse aussi aux perroquets. Monsieur Brin d'Avoine, donc la mer, c'était donc sa toute première maison. Une mer qui vous berçait, vous balançait, vous roulait, vous suçait. Le lobe de l'oreille, vous parlant tout bas. Et qui vous racontait qu'autrefois, avant d'être la mer, elle était une île, une petite île, une ancienne petite île. Et d'autres histoires encore. Ou bien de la musique, elle faisait de la musique, du saxophone. Et de la batterie.
Oui, au fond de la mer, jour et nuit, on entend jouer un batteur de génie. C'est le cœur de la mer qui change de rythme. Baltandem balade, balado bado bouton bateau canasse du diatri galton. Baltandem balade, balado bado bouton bateau canasse du diatri galton. Et si l'on voyait, oui, tous les banneux qui de balade, tant pis la fête a fait tous les banneux qui de balade, c'est beau. Tant pis la fête a fait tous les banneux qui de balade, et si l'on voyait, oui, tous les banneux qui de balade, bas. Saf fin en filo, si la serre, le chef du filard, il fin en sec. La foule a filé la folie, fougue nous de l'en boucher. Sans fin en filo, si la serre, le chef du filard, il fin en sec. La foule a filé la folie, fougue nous de l'en boucher. Quoi les babas, les papis, les mamis, les mimi, notan et tata. Si les dada, les babadati, on les dont tout pique à les trois coins. Quoi les babas, les papis, les mamis, les mimi, notan et tata. Si les dada, les babadati, on les dont tout pique à les trois pas. Pouba, pour lui de son bois, tu donnes la solution d'autre. Donc on n'est pas caca, qu'il fallait pas commencer tout petit. Plus tu vas début à du pépé, pépé, on rentre sur ton accordéon. Force du bas qui gagne, ça dalle, musique soufflée à bouton. Tant à gagner le bonbon, tiens, dont tu l'as dit, vous faites mon filon filon don. Tant à gagner le bonbon, tiens, dont tu l'as dit, vous faites mon filon filon don. Tant à gagner le bonbon, pardon, galopé le bal du cheval, stop, posi des cons du bidon. Tant galopé le bal du cheval, stop, posi des cons du bidon. Pardon, galopé le bal du cheval, stop, posi des cons du bidon. Tant galopé le bal du cheval, stop, posi des cons du bidon. Pas le temps de balader.
La chaleur de juillet fait vibrer le ciel au-dessus des avoines. La fermière a fermé les volets, puis avec le panier et le cidre frais à bicyclette à travers pré, elle va porter la collation au moissonneur, qui l'attendent à côté des chevaux en sueur à l'ombre des ormes. Elle longe le petit bois, elle pense qu'il y aura de l'orage pour ce soir. C'est les grandes vacances, c'est dans les années 50, dans la ferme, au-dessus du Petit Morin, en Seine-et-Marne, en France. Boubou les poulettes ont 8 et 9 ans. C'est Poulette la plus grande. Ils sont cachés dans le petit bois. Poulette dit que c'est comme une île, que c'est leur île. Personne ne le sait, personne ne vient là. Trois gouttes de rosée dans une toile d'araignée, une fraise, un ressort de sommier, une limace, deux champignons et des fougères à la saison. Depuis que le Tour de France est passé à la Ferté, Bouboule porte une casquette en papier avec de la réclame pour Gondolo, le biscuit qu'il vous faut. Il a mangé tous les biscuits sans le dire à Poulette, mais elle s'en doute, depuis qu'ils sont petits, Bouboule mange tout le temps. Au contraire, Poulette est une allumette. Une future grande bringue sèche comme sa mère. Avec des branches et des fougères, Bouboule et Poulette se sont fait une cabane dans un hêtre au-dessus des noisetiers. Et de là, allongé, ils scrutent le vaste monde, ils voient sans être vus. Un cajou fait la cheminée, un vieux sac sert de rideau, les murs sont en branches, la toiture en fougère, le lit, une couverture trouée de la guerre, du pain, du chocolat, des confitures volées. Du bonheur en été. Il y a des requins qui passent parfois dans les parages, des bateaux avec des pirates, des pirogues avec des sauvages. Une fois, ils ont entendu des pas et des voix tout bas, des souffles et des branches qui craquaient, des cris de quelqu'un qu'on étouffe. Et ils ont reconnu la bonne de chez Jarry avec le Marcel de l'autocar. Et voilà qu'un jour de cet été-là, Poulette n'avait plus envie de rien. C'était bien la première fois. Bouboule avait fabriqué une arbalète pour chasser la panthère noire, une panthère noire qui s'était enfuie du cirque Moreno et semait la frayeur jusqu'à Saint-Cyr-sur-Morin. Mais Poulette ne voulait pas. Bouboule voulait creuser un grand trou avec des branches dessus pour faire un piège à panthère, mais Poulette ne voulait pas. Bouboule voulait profiter qu'il n'y ait personne à la ferme pour aller décrocher le fusil d'Alfred, prendre les cartouches dans le tiroir sous la TSF et en finir avec cette panthère. Mais Poulette ne voulait pas. Ce jour-là, Bouboule voulait, mais Poulette ne voulait pas. Bouboule taillait des flèches. Il s'est arrêté et il a refermé son couteau. Son premier couteau. Un beau couteau que son père lui avait acheté au marché de Jouarre. Il l'a replié et il s'est assis à côté de Poulette. Poulette ne disait rien. Elle faisait des dessins dans la terre avec un bâton. Bouboule regardait son couteau. Il ne disait rien, lui non plus. Et le temps passait. Le temps était une petite araignée qui avançait très lentement sur une brindille. poulette regardait l'araignée. L'araignée est arrivée au bout de la brindille. Elle s'est arrêtée. Elle voulait s'en retourner, et puis non. Elle s'est jetée dans le vide et poulette a parlé. Si on s'embrasse très fort, on pourrait mourir. Bobou l'a ouvert son couteau. Il l'a essuyé avec son maillot de corps. Et il a refermé son couteau. Et il a dit, je vais retrouver Pierrot aux écrevisses à la rivière, je lui ai promis. Poulette a répété, si on s'embrasse très fort, on pourrait mourir. Bobou avait envie de rejoindre Pierrot. On peut choper des grenouilles aussi. Il suffit de leur tirer dans l'œil, pile avec la sarbacane. Il s'est levé pour partir. Il cherchait quelque chose à lui dire. T'es folle, je t'aime pas. T'es même pas forte, t'es toute maigre. Il tournait en rond. Elle allait pleurer, elle allait partir, tout devenait compliqué. Mais Poulette ne pleurait pas. Elle n'avait pas bougé. Il a rangé son couteau dans sa poche et il s'est assis à côté d'elle. Il aurait pu faire le contraire, mais il est resté. Côte à côte, assis sur un tapis de mousse qu'elle avait mis pour les invités, si les invités un jour venaient. Il n'avait plus envie de s'en aller. Quelqu'un d'autre tuerait la panthère. Pierrot peut-être, mais tant pis. Au loin, on entendait le bruit de la moissonneuse et des voix qui criaient après les chevaux, d'autres qui riaient. La fermière était rentrée, les bouteilles vides dans son panier. Elle préparait les seaux pour traire les vaches. Elle avait ouvert les volets. Elle avait ramassé les légumes au jardin pour la soupe. Allumé le bois dans l'immense cuisinière. Très loin, la cloche d'un clocher. La voix de la mère de Poulette en colère. Le passage de l'autocar Citroën sur la route de Coulommiers. Le soir, il y a eu de l'orage. C'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. Je ne sais rien d'autre. Je sais seulement que c'est là, ce jour de cet été-là, près de cette cabane de branches et de fougères, dans ce petit bois, au temps des grandes vacances, du pain et du chocolat, au temps où il y avait des chevaux dans les champs, au temps des paniers et du cidre pour les moissonneurs, pas loin du Petit Morin, en Seine-et-Marne, en France. C'est là que Bouboule a perdu son couteau.
Un bon fermier découvrit un matin dans sa basse-cour une poule fort étrange.
Viens donc, Médie, viens donc voir, je croyais aux mains que la noireaude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle a pas l'air méchante, mais tout ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute là, elle fait...
Voilà, des histoires retrouvées derrière les fagots radiophoniques, des histoires écrites il y a bien longtemps pour la radio, L'Orient Coin, les après-midi de France Culture, une séquence qui s'appelait Interdit aux adultes il y a bien longtemps. Vous savez pourquoi ? C'est que Noël approche, bien évidemment. Alors, une autre histoire.
le chat et le perroquet.
Il était une fois un bien étrange chat. Une fois, il était noir. Une fois, il était bleu. Une fois, il était gris. On savait pas trop à quoi s'en tenir avec lui. Et en plus de ça, ce chat avait des yeux bien curieux. L'un était en or et l'autre en argent. Un chat vraiment extravagant. Or, la même fois, il y avait un perroquet. Un perroquet modeste, sans rien d'étonnant, le même imperméable, la même cravate, la même moustache que tous les autres perroquets. Et voilà qu'un beau jour, le chat, ce chat exagérant, téléphone au perroquet. « Venez dîner ce soir chez moi !» Et le perroquet, très courtois, a dit « Oui, je vous remercie !» Et il se met en route avec ses beaux habits. Mais sur la table, déception. Il n'y a qu'une arête de poisson. « Mangez, mangez, voyons mon cher ami, vous n'avez guère d'appétit !» disait le chat noir, ou bien bleu, ou bien gris, en souriant de toutes ses dents à son ami. Le perroquet, sourire petit, n'osait rien dire, et sans manger, s'en est retourné en remerciant pour le dîner. Le menu l'avait sans doute un peu déçu, mais sans rancune aucune, notre perroquet, très courtois, à son tour, invita le chat. C'était un très grand dîner. Il y avait pour commencer 12 brochettes de souris grillées. Slip, slop et gobidabidé. Le chat, d'un coup, a tout mangé. Après quoi il y avait 18 saucisses de Francfort, 4 jambons de Paramé, un bœuf entier et quelques porcs, slip, slop et gobidabidé. Hop, le chat a tout avalé. Il y avait pour faire bombance les plus fins des vins de France et du champagne, bien entendu, slip, slop et gobidabidu, le chat en rotant a tout bu. « Tout ça m'a mis en appétit, » dit-il debout sur la table, engloutissant une montagne de desserts, de nouilles et de crème chantilly. « J'oserais même vous demander si nous allons bientôt manger. » Le perroquet, qui n'avait pas absorbé la plus petite miette, dit « c'est-à-dire je n'avais pas prévu. » Alors, sans le moindre respect pour les lois de l'hospitalité, le chat, slip, slop, gobidabida, le chat, dévora le modeste et poli petit perroquet slip, slop et gobidabidé. Et là-dessus, il partit par les rues. Un peu noir, un peu gris, un peu bleu, avec ce regard, comme je disais en commençant, un œil en or, l'autre en argent. Il sifflotait en marchant, mais malgré le bruit de la rue, on entendait distinctement dans son ventre le pauvre perroquet qui appelait au secours. « Quel drôle de chat !» dit un chien qui passait. Il répète comme un perroquet. « Viens le dire ici si t'es un homme !» Slip, slop, gobidabidom. Quand le chien s'approcha, le chat l'avala. « Où est mon chien ?» dit un enfant. « Je vais t'aider à le retrouver !» dit le chat en le dévorant. « Mon enfant !» pleurait la maman. Et hop, avec un rire amer, le chat avale la pauvre mère. Et ainsi de suite. Slip, slop, gobidabivit, slip, slop, gobidabidu, le chat a mangé tous les gens de la rue. Dans les rues avoisinantes, les pauvres gens chez eux s'étaient cachés. Mais slip, slop, gobidabidon, sans faire les présentations, le chat a tout mangé, y compris les maisons. À peine une minute plus tard, il avait mangé les boulevards. Le temps de compter jusqu'à 10, il avalait notre obélisque. À 12, il avait mangé tout le Louvre. À 16, c'était le Père Lachaise. À 20, c'était le Quartier Latin, la Seine, avec les péniches, Montmartre avec les Angliches, Notre-Dame, les Champs-Élysées, et même, et oui, la Tour Eiffel, pourtant si dure à digérer pour quelqu'un de bien entraîné. Le temps de compter jusqu'à 100, il avalait le grand lit blanc où dormait notre président avec sa charmante épouse qui sourit si gentiment. Et même les policiers qui jouaient sous le lit à la bataille payante se retrouvèrent dans le ventre de ce chat-là, tantôt noir, tantôt bleu, tantôt gris, comme je crois vous l'avoir dit, avec ses yeux surprenants l'un en or et l'autre en argent. Et c'est ainsi qu'en moins d'une nuit, il avala tout le pays. Le matin, très assoiffé, il but la Méditerranée. Avec les bateaux, d'une seule traite, d'un seul coup,
On vit disparaître l'Afrique, la Russie et l'Orient, les montagnes et les éléphants. Et comme c'était l'heure de déjeuner, il a mangé ce qui restait, slip, slop et gobidabidé. Et alors, enfin repu, il est allé faire une petite sieste. Mais comme il avait tout mangé, dans son ventre, tout le monde s'est retrouvé. Le monde entier. Et petit à petit, on a tout réparé. On a tout remis dans l'ordre, c'est-à-dire dans le désordre du monde. Mais on n'a jamais trouvé la solution pour sortir du chat en question. Eh oui, depuis ce temps-là, la terre tourne à l'intérieur d'un chat. Quand il est bleu, le ciel est bleu. Quand il est gris, le ciel est gris. Quand il est noir, c'est la nuit. Son œil en argent, c'est la lune. Le soleil, c'est son œil d'or. Et quand on voit des parapluies, c'est le perroquet qui fait pipi. Au pays de l'alphabet, où les lettres sont des êtres, Monsieur C devenait minuscule. Plus personne ne voulait de lui. Toujours occupé à l'abaisser, son voisin, Monsieur D, le trouvait ridicule. Il se voyait très rarement, à part dans les enterrements, quand quelqu'un était décédé. De l'autre côté du palier vivait la belle Madame B. Sans cesse en silence, C rêvait de ses boucles, ses pleins et ses déliés. Même en majuscule, elle n'était pas trop ronde comme Madame O ou trop frêle comme Madame L. Il rêvait d'elle, surtout la nuit, avec des bottes D, Q, I, R, sur un cheval qui N, I. Mais C était trop coincé. Il voulut lui envoyer une lettre, mais il ne sut jamais laquelle. Un soir, qu'il rêvait encore dans la rue des conjugaisons, il la vit passer, enlacée au bras de A. « Et oui, lui dit une voix, B-A-B-A-B-A, tout le monde sait ça. Ils sont attachés depuis toujours, il n'y a que toi pour ignorer ça, présomptueux petit C. » C'était bien sûr la voix de D. Le cœur brisé, Monsieur C se mit à en vouloir au porte-plume qui l'avait engendré. Il traînait dans les marges, il voulait s'abréger. Mais un soir dans un bar, il rencontre le K. Un ami à lui, qui le remplace parfois dans les mots des langues lointaines où les Kanaks vont en kayak et les Kakis boivent le kawa. « Mon cher ami, dit Monsieur K, allez donc voir Monsieur E. Il pourra vous aider. Il a tellement de succès dans les dictionnaires de français. » C alla voir E, célèbre pour ses casquettes aiguës et ses bérets graves. Mais on lui dit qu'il était dans l'eau, on lui dit qu'il était muet, et Monsieur C s'en retourna. Chemin faisant, il croise Y, le philosophe. « Pourriez-vous m'aider ?» demande C. « Circule, virgule, ou je t'apostrophe !» lui dit le savant courroucé. Et C va par les rues de plus en plus courbées. En passant, il donne machinalement un coup de poing sur un « i » qui pourtant ne lui avait absolument rien dit. « C'est assez. C'est assez. J'ai besoin de ma R.E. » Mais un soir, alors qu'il errait dans les forêts de l'alphabet, en passant près d'une rivière, il entend chanter un air. « M, M, il faut aimer. M, M. » « Tu seras aimé. » En écartant un peu les branches, Monsieur C voit Mademoiselle U, qui dans l'eau nage toute nue. Elle a toute ôté, tant L-H-O. C fut frappé par la beauté du. « C'est elle !» se dit-il, « c'est elle !» Il court se mettre en majuscule, il chausse sa plus belle cédille. « C'est elle, c'est elle !» Il croit à ses amis. « L.O. » lui dit Hervé, « tu es plein d'énergie !»« L.O. » lui dit L.N. qui fait ses H.A. car elle a K.C. sa Q.I.R.A.T. « Tu es tout énervé !» Mais sans écouter, il court et enfin il s'arrête, tout boule R.C.E. Il tombe au pied de la lettre. « Depuis longtemps je vous cherchais. » J'ai traversé tout l'alphabet et c'était bien monotone. Ah, oh, je vous aime, jolie voyelle. Nous sommes faits sur le même modèle pour quelqu'un qui s'est dessiné. 13 M-U-U. Ne sait plus où se mettre. Je reçois tellement de lettres. Elle était employée dans un ordinateur. Le soir même, à 5 heures tapantes, il se retrouvait derrière l'imprimante. Et voilà qu'à son tour, juste avant le premier baiser, U entendit l'air enchanté. M, M, il faut t'aimer. M, M, tu seras aimé. Alors, comme une parenthèse, le cœur d'U s'ouvre assez pour laisser passer C. Bien vite, le bruit se répandit et chacun sortit de sa boîte aux lettres afin de composer des mots et des phrases au hasard qui montèrent dans un autocar pour aller à la noce qui eut lieu dans l'Aisne. La petite U était très belle, avec son chapeau circonflexe et sa robe en calligraphie. Faute d'orthographe et photographe, tout le monde était invité. À la sortie de la mairie, on donna des coups de klaxon qui faisaient des points d'exclamation. Une petite virgule se ferma, une grosse parenthèse sur les doigts, mais bien vite on la consola. « Ouvrez les guillemets !» dit le A. Alors, la fête commença. Les 10 chiffres invités arrivèrent en premier, à part le numéro 3 qui s'était perdu dans les bois. Chacun sur son 31 s'était mis en 4. On put voir le numéro 6, qui mangeait beaucoup de saucisses. Il y avait les frères 7, 8, 9, tout contents dans leurs habits neufs. Il y avait des caractères venus des quatre coins de la terre, des Russes, des Arabes, des Chinois qu'on ne comprenait vraiment pas, venus d'Éthiopie, d'Arménie, hiéroglyphes et graffitis dans des robes de gala. Le cousin W, venu d'Angleterre, mangea du H-I à la petite Q-R. L'inconnu Monsieur X fit une apparition en jetant sur la table de façon regrettable quelques mystérieux points d'interrogation. Il y avait un tiret qui avait bu un coup de trop, il voyait double et savait pas s'il parlait à un point ou à un tréma. Et pour faire rigoler la noce, tonton Y faisait le Z. Enfin, pour mettre un point final à la fête, il y eut un grand bal, et toutes les lettres dansèrent au son d'un vieil abécédaire. Les mariés, pour leur lune de miel, partirent 8 jours en italique. Puis, à Paris, ils logèrent chez le G, pas très loin de la tour Eiffel, dans un petit livre en carton. Pour ne pas faire d'indiscrétion, arrêtons ici cette histoire avec des points de suspension. C'était l'histoire de Monsieur C, qui épousa Mademoiselle U. La dernière fois que je les ai vus, ils attendaient un petit cul. Autrefois, Rigaudin, c'était le plus grand comédien. Rigaudin était célèbre dans le monde entier, et le monde entier venait au théâtre le voir jouer. Il était jeune, il était beau. Partout, on voyait sa photo sur les affiches, dans les journaux. Rigaudin, le grand comédien. Et dans le plus grand théâtre de Paris, Rigaudin jouait une pièce avec un seul personnage, un vieux. Un très vieil homme qui racontait sa vie. Et Rigaudin le jouait si bien, il savait si bien se courber, marcher à petits pas et faire trembler un peu sa main comme ça que le public n'en revenait pas. Alors il restait là pour applaudir Rigaudin, le grand comédien. Chaque soir, Rigaudin arrivait au théâtre 2 heures avant le spectacle. Il s'enfermait dans sa loge devant son miroir. Avec le plus grand soin, il se maquillait comme on fait un dessin. Il mettait d'abord un fond gris pâle, un peu fané. Puis avec un crayon, il dessinait les rides autour de la bouche et autour des yeux. Avec un gris plus foncé, il faisait des joues en creux. Avec un peu de mauve, il traçait des cernes sous les yeux. Il mettait une perruque avec seulement quelques cheveux blancs et des petites lunettes en fer sur le bout de son nez tombant. Et enfin, il enfilait son costume. Un vieux costume de vieux. Dans le théâtre, le public attendait l'instant où Rigaudin apparaîtrait. Enfin, dans la salle, la lumière s'éteignait. Les 3 coups battaient comme le cœur des spectateurs. Le grand rideau rouge se levait. On ne voyait rien. juste un peu de lumière. Quelqu'un qui toussait. Et puis un pas qui arrivait à petits pas. Regarde. La frêle silhouette ressemblait à une branche morte que le vent d'hiver fait bouger. À peine si on entendait la voix fragile raconter l'histoire irréparable. Parfois, il s'arrêtait, le regard suspendu, comme si quelqu'un allait venir, un fils, un camarade, un amour de jeunesse. Et tout le temps passé, tout le temps perdu, risible silhouette écrasée par l'immense nuit qui marche. Enfin, sa main bougeait un peu, comme un adieu. Cœur serré, souffle retenu, mouchoir blanc dans le noir. Et à la fin, c'était une explosion de bravo. 10 fois, 20 fois, Rigadin venait saluer. Mais pendant qu'on l'acclamait encore, il regagnait sa loge par un petit escalier dérobé, et là, il s'enfermait à clé. Devant son miroir, il se démaquillait. Il enlevait les lunettes en fer, il enlevait la perruque avec les quelques cheveux blancs, il enlevait les rides et les cernes violets. Comme on gomme un dessin, il effaçait son personnage. Il enlevait ses habits de vieux et il retrouvait les siens, les élégants habits du grand comédien Rigadin. Devant la porte, les admirateurs l'attendaient avec des bouquets, des billets, des femmes très belles, des ambassadeurs, des princes ottomans, tous les grands de ce bas monde se pâmaient. Quelle merveille, c'est un magicien, quel est son secret, il faut l'inviter au palais. Mais par une petite porte, Rigadin s'en allait. Et c'était ainsi tous les soirs. Rigadin, en effet, avait-il un secret? Il ne répondait à aucune question. Il préférait rentrer chez lui à pied sans se presser. C'était le mois de mai, et dans la nuit parfumée avec son long manteau et son grand feutre noir, le grand comédien faisait sonner sa pommeau d'argent sur le boulevard Saint-Germain. Il prend une petite rue pavée qui conduit vers la Seine. C'est par là qu'il habite, au numéro 3, au 6e étage, juste sous les toits. Il monte le premier étage d'un pas léger, une raison de se presser, personne ne l'attend. 6 étages, c'est haut. Rigadin ne va pas trop vite, la représentation l'a un peu fatigué. Et quand même au 4e, il s'arrête pour souffler. Il monte plus lentement, plus péniblement. Enfin, voici le 5e. Encore un étage à monter. Le grand comédien, épuisé, monte marche par marche en se tenant à la rampe. Plus que 3 marches. 2. 1. Devant sa porte, il reprend sa respiration. Avec des gestes ralentis, il trouve enfin sa clé. Il entre, il allume une lampe et il se laisse tomber à bout de souffle dans un vieux fauteuil devant un miroir. Et alors, il essuie lentement son visage. Et voilà des rides qui apparaissent autour de la bouche et autour des yeux. Sous les yeux apparaissent des cernes mauves. Il frotte encore, et voilà ses joues qui se creusent. Il enlève sa perruque et voici son crâne, avec quelques cheveux blancs. Alors, en tremblant, il met ses petites lunettes en fer au bout de son nez tombant. Et dans le miroir, apparaît enfin le vrai visage de Rigadin.
Voilà, des petites histoires pour les grands-enfants et des grandes histoires pour les petits-enfants. Des histoires retrouvées derrière les fagots. Ulule, l'histoire de Ulule qui invite l'hiver à se réchauffer tout en buvant un thé aux larmes, interprété par la troupe Les Rémouleurs à l'espace Confluence, dans le 20e à Paris à 14h30 jusqu'au 24 décembre. Voilà ce que vous recommande Pascal le Pascariello. Technique aujourd'hui Enguerrand de Sade et Gaëtan Colli, Yann Chouquet et Christophe Imbert, c'est l'équipe de la basse, j'y suis, entre autres d'ailleurs, il y en a plus que ça. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37 et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Réclame